Vacances. Le voici arrivé, le moment tant attendu.
Quand faut y aller, merde.
Il y avait du soleil, alors je suis descendu.
Il y a du soleil, il y a des nanas.
Cinérama.
Je vais vous tenir au courant des mesures qu'on va prendre.
À mon avis, il y aura des ouvertures.
Génial.
Je ne m'attarderai pas en vaine palabre, je serai bref et précis, je ferai feu à bout portant.
Tu pars pas en vacances?
Non, pourquoi?
Pas possible.
Nous dépendons énormément de la saison d'été, c'est vital.
C'est le seul point noir au tableau.
Je m'en fous.
Tout l'été, Cinérama, blind test et actualité du cinéma.
Ouais, jamais très original dans ces moments-là.
This is Cinérama.
Bonjour, l'été se poursuit en pente douce, hein, pour prendre une référence cinématographique, avec des films qui continuent de sortir, et on en a vu certains, comme le feel-good movie italien Le Défi du Champion, le plus taiseux film chinois Chongqing Blues, et le film d'épouvante The Vigil. Mais pour cet été, Cinérama met l'accent sur les blind tests, on en ressort deux réalisateurs qu'on apprécie beaucoup et qui voient des films en copie neuve restaurée réintégrer les salles. Il s'agit de David Cronenberg et David Lynch. On commence avec ce dernier.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi, c'est une blague ou quoi ?
Elephant Man, monument de David Lynch, est ressorti cet été en copie neuve et restaurée. C'est l'occasion donc de ressortir un blind test de nos archives d'émissions. Lynch ayant fait peu de films et tous étant très marqués, ce devrait être facile.
This is Cinérama.
On va essayer de reconnaître donc des films de David Lynch. Alors c'est du facile, c'est simplement pour montrer bien l'univers un peu singulier et finalement les différents films de sa filmographie. Premier extrait facile.
Dr. Yue. Avez-vous des informations sur les vers de la planète Arrakis?
J'ai obtenu un livre bobine sur un petit spécimen qui ne faisait que 125 mètres de long.
Seulement?
On a pu observer certains vers mesurant environ 450 mètres dans le désert profond. Mais nous vivons loin des sables à Arrakis. La ceinture désertique et la zone polaire australe sont frappées d'interdiction.
Comment les Fremen survivent-ils là-bas?
Nous en savons très peu sur les Fremen. Ils vivent dans le désert profond et un petit nombre dans les villes. Leurs yeux sont bleus sur fond bleu.
Ah, leurs yeux. Oui. Leur sang est saturé par le mélange qu'ils prennent en abondance.
Quel est ce mélange? Vous le saurez en regardant
Dune.
Eh oui, ça c'était facile. David Lynch avait fait un premier montage de 4 heures qui a fortement déplu au producteur qui en réclamait 2 heures. Voilà. Donc il a dû...
C'est le plus mauvais film de Lynch. Hein. C'est son seul mauvais film d'ailleurs.
Deuxième extrait.
Avec les pièces et la main-d'œuvre, le total se monte à $247. Quoi.
Je trouve que l'addition est un peu lourde pour un travail léger. Vous ne trouvez pas? Je n'ai que les yeux d'un vieillard, mais... C'est des pneus neufs, ça?
Bon, écoutez, ce sont des pneus de récupération, mais les sculptures sont bonnes.
Mes amis, vous me faites payer pour du bon ou pour du neuf?
Thorvald?
Là, on peut vous faire un petit prix.
Eh bien, je crois que la réduction devrait être d'une trentaine de dollars. Votre stylo est du même avis.
C'est passionnant.
C'est une négociation, Marine. C'est une négociation, mais importante parce que c'est quoi le film?
Une histoire vraie.
Voilà, c'est une histoire
du
vraie.
Vieux monsieur qui part
avec sa tondeuse.
Avec sa tondeuse.
Voilà,
ouais.
À tondeuse à gazon. Donc il est question de cette tondeuse et tout au long du film, eh bien, il est obligé de négocier parce qu'il a très peu d'argent et donc ça c'était assez important parce que c'est pas la première fois qu'il négocie dans ce film. Film, pour ma part, j'ai été assez étonné. J'ai mis longtemps à le voir, mais quand je l'ai vu, je me suis dit, mais quand même, quelle réussite.
Enfin, j'ai trouvé ça très très bien, c'est très très curieux, très simple.
Du début à la fin. Ouais. Donc, une histoire vraie, sortie en 99.
Oh, Franck, voilà une bonne surprise et tu as amené tes amis. J'adore les surprises. Prends un siège. Quelle suavité, tu es un garçon rare, tu sais, tu es une sorte de miracle. Tu veux une bière? Avec joie, Franck. Darling. Darling, tu nous apportes des verres. Je veux boire une bière avec Franck. Fais vite, mais asseyez-vous donc.
Cher Ben, ça va chez toi?
Bien, très très bien. Et chez vous?
Foutrement bien. Foutrement bien.
Facile aussi, hein, Manu.
Bah, c'était Blue Velvet. Hein.
Film de 86, voilà. Et on écoutait bon, la version française de Dennis Hopper, mais plutôt bien fichu. Je me pose si on raconte l'histoire de Blue Velvet. C'est déjà un film à énigmes, voilà. Et on va en écouter un autre extrait d'un film à énigmes.
Je veux que tu te remettes au boulot demain au studio. De toute façon, tu voulais remplacer l'actrice principale. Auditionne pour le rôle le plus de filles possible. Quand tu verras la fille qu'on t'a déjà montrée ce matin, tu diras « C'est elle, c'est la fille ». Le reste de la distribution, ça dépend de toi. Mais le premier rôle féminin, le choix de l'actrice qui jouera ce rôle-là, c'est pas de toi que ça dépend. Après ça, tu me reverras seulement une fois. Si tu te conduis bien. Ou bien deux fois, si tu te conduis mal. Bonsoir.
Voilà. C'est facile, ça aussi.
Je crois qu'elle s'est mal conduite, non ?
Non, alors c'est le réalisateur. C'est le réalisateur qui rencontre le cow-boy.
C'est Mulholland Drive.
Histoire d'amour hein, dans la cité des rêves. Enfin, on ne sait pas trop. En tout cas, un gros film à énigmes sorti en 2001, prix de la mise en scène au Festival de Cannes. Dernier extrait.
Cooper, je te présente un revenant, Philip Jeffries. Tu as dû en entendre parler à l'école des cadres.
Je vous le dis tout de suite. Il n'est pas question de parler de Judy. Je refuse d'entendre un seul mot sur Judy, un seul. Je refuse de la mêler à cette affaire.
Gordon !
Je sais, Cooper.
Qui croyez-vous qu'il soit, celui-là ?
Les coups que t'as pris sur la tranche t'ont pas arrangé.
Qu'est-ce qu'il raconte, celui-là, Albert ? C'est mon agent spécial, Dale Cooper. Pour l'amour du ciel, Jeffries, où étiez-vous passé ? 2 ans qu'on ne vous a pas vu. 2 ans !
Bien sûr, je vais tout vous dire. Mais je n'ai guère de temps. Oh, mais croyez-moi, j'ai bien suivi. C'était un rêve. Et nous vivons dans un rêve.
Avec cet anneau.
La bague. Elle était au-dessus d'un supermarché.
Le monde parallèle, ça a été trouvé. C'est
Twin Peaks.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Mais tâchez de faire vite.
Autre grand réalisateur qui voit un de ses films ressortir faute d'en avoir un nouveau à proposer, c'est Cronenberg. En 1996 sortait Crash, adaptation d'un roman de J.G. Ballard, un film qui avait divisé à l'époque et qui continue de diviser. À mon humble avis, il devrait être étudié dans toutes les écoles de cinéma. Alors on ressort de nos archives un blind test spécial David Cronenberg. Ce jour-là, nous recevions aussi dans l'émission un réalisateur de films fauché mais malin, François Gaillard, et un directeur de salle de cinéma, Arnaud Clapier. C'est pourquoi le blind test s'étire plus qu'à l'habitude. Le premier des invités connaissait vraiment son Cronenberg par cœur. À vous de jouer maintenant.
This is Cinérama.
Alors, je connais surtout les premiers Cronenberg.
Eh ben voilà, ça tombe bien.
Je n'y arrive pas avec de la chair. Il semble que ça ne marche qu'avec les objets et pas avec ce qui est vivant. Oh, c'est sûrement de ma faute.
Pourquoi ?
Les ordinateurs sont stupides, ils ne savent que ce qu'on leur dit. Il faut que j'en sache plus sur la chair, il faut que j'apprenne.
Alors, ça a été trouvé parce que c'est facile.
La mouche, voilà. Et en même temps, ça pourrait être n'importe quel Cronenberg.
Exactement, c'est aussi ce que je me suis dit.
C'est vrai, c'est vrai.
On reconnaît le doubleur de Jeff Goldblum, donc...
Il y a ça aussi. Bah oui, là, je suis obligé de passer des VF. Hein. Ouais, ouais. Alors, deuxième extrait.
Alors, on a joué au grand chef, le naze.
Quoi ?
Non. T'es le héros du coin. La superstar de l'école. Hein ? Le héros qui sauve le match à la dernière minute. Pas vrai ?
Ça va, Bobby. C'était qu'un jeu. Une partie de baseball à la con.
Tu me traites de con, Minus ?
Non, j'ai dit une partie de baseball à la con.
Non, j'ai dit une partie de baseball. Écoutez tous la petite fiotte.
Hé. Hey, c'est ça, t'as raison. Je suis petit et je suis une fiotte. T'as découvert le poteau rose.
Viens te battre, poule mouillée. Allez, viens !
Mais pourquoi faire, hein ? C'est vrai, t'as gagné. T'es fort, t'as gagné. Tu as su établir ton statut de mâle alpha. Et tu as établi mon inutilité. Alors, user de violence sur moi me semble peu nécessaire et cruel.
Tu crois pas?
Viens te battre, pauvre pédé! Tu devrais plutôt me traiter de sale petite fiotte de ta mère.
Joli mot, fiotte de ta mère.
Connard!
Alors, petite séquence qui a son importance, a été trouvée par François en premier.
History of Violence.
Voilà. Donc c'est le fils
de Viggo Mortensen.
Viggo Mortensen, donc qui oppose à l'espèce de violent du lycée, enfin une espèce de réflexion, enfin voilà, se battre c'est pas bien, et puis forcément ce personnage va changer au cours du film. Donc là j'étais obligé de prendre ça, Marine. Parce que tu m'as dit que tu avais surtout vu Cronenberg à partir d'History of Violence.
Oui, mais en fait, je me rappelais surtout de Viggo Mortensen dedans. Et
ouais, ça aurait été trop
je ne me rappelais même plus qu'il avait un fils.
Voilà. Ça aurait été trop simple si j'avais pris Viggo Mortensen. Un nouvel extrait.
Ils viennent de l'inconnu. Et ils sont là. Ils se cachent, prêts à frapper. Vous pouvez sentir leur présence autour de vous. Jamais encore vous n'avez approché d'aussi près les frontières de la terreur. Jamais encore vous n'avez été confronté à quelque chose d'aussi surnaturel, d'aussi étrange, d'aussi angoissant. Jamais avant cet instant.
Es-tu prêt pour moi, Frank? As-tu réalisé que ta femme est devenue une personne bizarre, en plein milieu d'une très étrange aventure?
Je veux aller avec toi n'importe où.
Tu en es sûr?
Oui.
Alors regarde.
Alors.
La bonne bande son bien insupportable.
Alors c'est une bande annonce effectivement qui fait référence au premier film, un des premiers films de Cronenberg. François, ça a été trouvé.
Chromosome 3.
Voilà, après avoir cité les deux autres.
Ouais, j'avais cité d'abord Rage et Frisson. C'était au moins un de cette période.
Alors ça va pas être plus simple. C'est encore une bande annonce volontairement tapageuse.
10 secondes. La douleur commence. Dans votre chair. Dans votre cerveau. 15 secondes. Vous étouffez. La douleur est intolérable. Car leur pouvoir est démoniaque. Ils contrôlent votre esprit. Ils manipulent votre corps. Ils prennent possession de vous jusqu'à complète destruction. 20 secondes, vous explosez. Vous allez vivre une expérience des plus insolites. Dès maintenant, vous ne serez plus en sécurité. Leurs pensées peuvent tuer.
L'emprise monstrueuse de la parapsychologie. Une organisation à détruire, impitoyablement. Un film angoissant à voir absolument. Ils détiennent le plus terrifiant pouvoir pour vous détruire.
Voilà, j'ai préféré prendre encore une bande-annonce plutôt qu'un extrait. Donc ça a été encore trouvé, mais là, dès les deux premières secondes.
C'était Scanners, donc, voilà. avec le génial Michael Ironside.
Oui, effectivement, qui est un des mauvais Scanners, donc qui sont des gens qui sont capables de... Eh bien de
faire exploser la tête par
voilà.
La pensée.
Et il y a une scène incontournable du cinéma quand même. C'est la première explosion de tête aussi bien filmée
aussi bien mise en scène. Il y a aussi juste une parenthèse. Il y a une actrice que j'aime beaucoup dedans qui pourtant n'est pas très connue et après une carrière un peu moins brillante. C'est Jennifer O'Neill en fait qui avait joué dans Un été 42 et qui avait aussi joué dans L'Emmure vivante de Lucio Fulci. Donc voilà, c'est le premier rôle féminin de Scanners et je trouve que cette actrice est particulièrement belle et charismatique dans ce film, quoi.
Et ça, c'était le dernier film vraiment produit par l'industrie du porno, non, je crois.
Alors, c'est surtout ces deux premiers films, même ces trois, Chromosome 3, oui, il était produit par par une boîte de production porno qui était dirigée par, roulement de tambour, Ivan Reitman, en fait, qui plus tard est devenu le réalisateur des SOS Fantômes. Donc, c'est pour ça que dans Rage, il y avait la très jolie et canadienne aussi Marilyn Chambers.
Qui était une...
Une actrice porno qui a été très connue avec le film Derrière la Porte Verte. Mmh. Donc,
allez, encore, c'est l'avant-dernier extrait.
Nous allons prendre un petit goûter et après, ok sur glace.
Non, écoutez-moi, annulez le match, il va y avoir un accident. Annulez le match.
Soyez pas grotesque, on a toujours patiné sur ce plan d'eau jusqu'en mars. Mais enfin, Johnny, qu'est-ce qui vous prend?
Vous voulez tuer votre fils?
J'ai peur de ce qu'il dit.
Mais vous êtes inconscient, quoi? Alors, n'aie pas peur, va manger tes gâteaux.
Vous ne savez pas qui je suis?
Oh, mais si je sais qui vous êtes, est-ce que vous seriez là auprès de mon fils si j'ignorais votre profil? Mais c'est le professeur que j'ai engagé, non le champion de la voyance. Et toi, ne discute pas.
La glace, elle va se briser!
Alors, ça a été encore trouvé. Vas-y, François.
Dead Zone, adapté du roman de Stephen King, avec Christopher Walken et Martin Sheen, entre autres.
Qui joue le méchant politicien.
Le méchant républicain, mais c'est un pléonasme. Ouais. Mais voilà.
Donc, voilà, un film un peu à part, moi je trouve, dans la filmographie de Cronenberg, mais on n'a pas le temps d'en discuter spécialement, donc on va passer au dernier extrait.
Beverly.
Quoi?
C'est un nom de fille. Pourquoi ta mère t'a donné un prénom de fille, je me demande?
C'est pas un nom de fille, ça s'écrit pas de la même façon.
Ah ouais, mais c'est quand même un nom de fille. Ton frère, il a un prénom de fille, lui aussi? Marianne, avec un seul N, et sans E.
Qu'est-ce que tu insinues? Que je suis pédé, je sais pas. Que ma mère voulait des filles. Rien à foutre, putain. Psychanalyse de passard.
Il est très très énervé. Donc il est question du prénom. Il a un frère. Prénom féminin pour le coup.
C'est
ambivalence.
Faux semblant.
Ouais. Voilà. Avec les deux.
C'est un frère.
Les deux gynécologues qui s'échangent les vies, les compagnes, et ainsi de suite. Et voilà.
Et les ustensiles de gynécologie.
Voilà. Avec,
c'est pas très hygiénique.
Ce fameux bœuf qui, effectivement, transforme
ses. Formes intéressantes.
Il transforme ses instruments donc gynécologiques en espèce de. Enfin, plutôt œuvre d'art, quoi. Enfin, voilà.
C'est ça. Voilà, mais c'est censé marcher. Hein.
C'est censé marcher, sauf que. Voilà. Et à noter que l'actrice qu'on entend ici est dans le film, dans la fiction, une actrice très très connue, mais qu'elle a un problème, c'est qu'elle est triphide. Donc il a trois ovaires, oui. Voilà, oui. Oui, non, oui, ça c'est le côté mutant hein, chez Cronenberg. Il y a toujours un petit aspect, voilà, un petit dérèglement quand même. Ainsi s'achève ce blind test.
This is Cinerama.
On en a fini avec le jeu et les archives de l'émission. Voici maintenant l'actualité du cinéma avec trois films que nous avons vus. L'été, c'est la diversité. Il y a les films des grands studios, enfin en temps normal, hein, les films art et essai, et puis les comédies. En voici une douce, hein, un feel-good movie dans l'univers du foot. C'est le défi du champion.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Feel Good Movie italien, le défi du champion de Leonardo d'Agostini, ou plus simplement Il Campione en italien, est sur les écrans depuis le 5 août. À quoi l'on reconnaît que c'est un Feel Good Movie? Au pitch, assurément. Hein. Le défi du champion met aux prises deux caractères bien différents. D'un côté, Christian Ferro, un jeune d'à peine 20 ans, star du football, avant-centre dans le club de l'AS Roma. Et de l'autre, un prof qui a passé la cinquantaine et qui n'y connaît rien, mais alors vraiment rien en football. Christian est un stéréotype, voire un cliché hein, du jeune joueur de football avec sa grande maison, ses voitures de sport, ses amis qui vivent à son crochet. Mais avec ça, il cultive une attitude violente sur le terrain qui lui vaut des cartons rouges et son comportement en ville n'est pas des plus appréciés non plus par le président du club qui décide de lui donner un défi. S'il veut jouer, il doit obtenir son bac à la fin de l'année et obtenir de bonnes notes à des contrôles réguliers. En somme, retourner à l'école. Mais pour cela, il faut un prof qui le tient à la culotte, comme un défenseur le ferait sur le terrain. Les candidats ne manquent pas, mais un seul intrigue, c'est Valerio.
Quelle matière vous enseignez?
Littérature, philosophie et histoire. Mais j'aborde également les matières scientifiques.
Et que faisiez-vous auparavant?
J'enseignais dans un lycée public. Je fais du soutien scolaire désormais.
Et pourquoi vous n'enseignez plus au lycée?
Pour divers petits soucis.
Pour qu'un prof se fasse lourder dans ce pays avec les syndicats qu'on se paye, c'est que vous avez dû sacrément merder, non?
Non. Non, en fait, c'est moi qui suis parti.
Un examen par semaine. Il n'a pas la moyenne, il joue pas. À la fin de l'année, il passe son bac. Vous en dites quoi? Vous croyez réussir à discipliner cette espèce de petit trou du cul ?
Alors évidemment, pour que la sauce prenne, il faut que les deux personnages soient éloignés. Avec Valerio, on tient le bon bout. On sait qu'il a quitté l'éducation nationale, mais on n'en connaît pas le motif. Il se contente de donner des cours particuliers. Alors, mais surtout, il ne connaît pas l'élève qu'on veut lui mettre dans les pattes une vraie force.
Sérieusement, vous n'avez aucune idée de qui est ce gosse ?
Tu suis pas le foot, toi ?
Si, la Coupe du Monde, si.
Très bien, merci beaucoup. Nous vous ferons savoir très rapidement ce que nous avons décidé.
Excusez-moi, mais il y a un truc que je capte pas. Pardon, mais vous vous présentez devant nous pour un entretien d'embauche, non ? Et non seulement vous vous présentez habillé comme un sac, mais en plus vous ne savez même pas qui est ce phénomène.
On m'a dit qu'il s'agissait de donner des cours à un certain Faro.
On peut dire qu'il aime la provoque, lui. T'en as dans le froc, toi.
Je vais reformuler ma question. Ça vous amuse de faire perdre leur temps au champ ? Ou êtes-vous en train de me prendre pour un con ?
C'est pas mon genre de prendre les gens pour des cons. Et je vois pas en quoi c'est grave de pas savoir qui c'est. Vous cherchez quelqu'un pour enseigner, et ça, c'est mon métier. Si c'est pas le cas, alors celui qui perd son temps aujourd'hui, c'est moi.
Valerio est donc le prof. Une tâche compliquée compte tenu de l'emploi du temps d'un joueur de football qui doit se consacrer évidemment à sa carrière sportive, mais doit aussi donner du temps à ses sponsors quand il n'aime pas en perdre avec ses amis autour d'une PlayStation ou en boîte. La recette du défi du champion est donc bien celle de deux caractères qui semblent diamétralement opposés, mais qui vont finir par rentrer en connexion. D'une certaine manière, les deux se ressemblent. L'ancien prof de lycée cherche un nouveau souffle, un nouveau sens à sa vie après une dure épreuve. Quant au jeune footballeur, il ne l'a pas encore trouvé, pris dans un déterminisme auquel obéit bon nombre de jeunes stars qui sortent de l'adolescence pour graviter au seuil de l'âge adulte. Difficile pour eux de faire les bons choix, de s'entourer des bonnes personnes et même de se connaître. Alors ce qui pourrait les rapprocher, c'est aussi leur solitude. Si l'un, le professeur, vit seul dans un grand appartement qui accueillait auparavant une famille, l'autre vit dans une grande maison sans cesse occupée mais sans âme. Alors à mesure que le film avance, les deux personnalités s'exposent, se rapprochent, le prof sort de son rôle et la bêtise apparente du capricieux joueur de foot s'effrite. Mais encore faut-il trouver une brèche. Cette brèche, c'est celle du savoir et comment le partager. Le prof trouve une solution. Habitué au schéma tactique, le footballeur pourra les comprendre même quand il s'agit de la grande histoire.
Le problème, c'est pas que tu comprends pas, c'est qu'on te comprend pas toi. En fait, il semble évident que tu as un mode d'apprentissage qui t'est personnel. Il est visuel. En fait, j'ai fait une erreur de méthode. Alors j'ai pensé à quelque chose. Des schémas, avec des liens logiques de causalité.
Le film de Leonardo d'Agostini, dont c'est le premier long-métrage, se regarde avec plaisir, hein, comme une friandise, enrobé d'images de football. L'histoire se complique un peu quand il s'agit de parfaire l'éducation sentimentale de la jeune star. Au passage, l'univers du football y est plutôt bien décrit. Cette histoire de bac à passer n'étant qu'un prétexte, hein, à faire monter le prix du joueur. Le défi du champion est en salle depuis le 5 août. Que diriez-vous d'un film d'épouvante au cœur de cet été, avec un homme qui, à court d'argent, décide de devenir un chômeur ? Il n'y a pas de faute de prononciation. C'est Guillaume qui nous explique tout cela.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
Oui, oui, oh, ça va !
Imaginez que vous êtes dans une situation financière particulièrement précaire et que vous ne pouvez pas vous permettre de refuser la moindre opportunité de travail. Eh bien, cette galère, c'est celle dans laquelle se trouve Yaakov. Yaakov est un New-Yorkais qui a récemment tourné le dos à sa communauté juive orthodoxe après un drame personnel qui a mis à mal sa foi et ses certitudes. Et donc, pour se faire tant bien que mal à la vie qui continue et aux factures qui, ben, elles, ne s'arrêtent pas de tomber régulièrement, il décide d'accepter un poste de chômeur. Alors chômeur, hein, pas chômeur comme en français. Un chômeur, c'est un gardien qui est chargé de protéger un mort lors de sa veillée funèbre en récitant des psaumes pour apaiser l'âme du défunt et l'éloigner de tout mal invisible. Le carton, lors de l'introduction du film, prend le temps d'informer tous les spectateurs, pas forcément au courant de cette pratique religieuse, que ces gardiens sont généralement des parents ou des proches, mais qu'il existe aussi des chômeurs rémunérés. On peut les solliciter quand personne d'autre ne peut le faire. Pour les amateurs de fantastique, c'est un point de départ assez excitant, hein, que cette nouvelle production Blumhouse, hein, parce qu'on y retrouve les habituels ingrédients chers à Jason Blum. Alors d'abord, il y a une idée high concept, hein, qui arrive à être suffisamment évocatrice en quelques mots. Une unité de temps réduite, hein, ici l'action se déroule le temps d'une nuit, et quasiment un seul lieu, la maison dans laquelle va avoir lieu la veillée. Veillée, on s'en doute, qui ne va pas être de tout repos pour Yaakov, aussi tourmenté que le mort par son passé. Et c'est là que le premier souci du film apparaît. Car bon, ben, s'il est assez plaisant à suivre et ne manque pas de bonnes idées, hein, bon, on y reviendra, il est aussi beaucoup trop balisé pour justement pleinement séduire les amateurs de fantastique.
Quelque chose hante cette maison.
Il faut qu'on s'en aille maintenant. Cette chose va vous empêcher de partir. C'est quoi qui va m'empêcher de quitter cette maison ? Le Mazik, au bout de 5 minutes, vous fera revenir au rempart.
Alors, on vous défie de ne pas identifier dès les premières images du film hein, quel va être l'un des traumatismes du passé de l'un des personnages à la simple vue du canon d'un Luger et le fait qu'on sait, grâce au carton d'introduction, que l'action va se passer au sein de la communauté juive. Donc, il faudrait être une vraie bille en histoire, mais aussi en histoire du cinéma, pour ne pas comprendre à chaque fois avec 20 bonnes minutes d'avance ce qu'il va se passer et ce qu'est en train de traverser notre héros. C'est fort dommage car, enfin, hein, une production horrifique tentait un peu d'originalité en quittant les sentiers ultra arpentés des religions habituelles et allait nous offrir une expérience surnaturelle issue d'une croyance et d'une foi beaucoup moins employée à l'écran dans cet écrin. Donc exit les croix qui se retournent, les purées de pois verts, les petites filles asiatiques aux cheveux sales, les démons des neuf cercles de l'enfer, les corbeaux qui ramènent les morts de l'au-delà ou encore les cimetières indiens. Place au Mazik, dont le nom signifie « destructeur » en hébreu. Cette entité aussi tangible que métaphorique, on va bien sûr pas tout vous révéler, hein, a pour but d'incarner un croque-mitaine moderne directement issu de la théologie juive et de l'aveu même de son réalisateur d'en être son pasusu, soit l'équivalent du démon de l'exorciste pour sa communauté. On y retrouve la façon de filmer les entrées dans la maison, hein, vous savez, cette image iconique hein, qui a donné naissance à la célèbre affiche du film. Dans cet effet de décalage, le film rappelle le méconnu mais pourtant très chouette Ghost House qui perdait en 2017 un couple d'Américains dans la campagne profonde de la Thaïlande et les obligeait à faire face à une force maléfique qu'ils ne comprenaient pas culturellement parlant. Cela permettait un décalage intéressant entre le spectateur et le spectacle regardé, comme pour The Vigil, avec les mêmes pertes de repères. Malgré tout, The Vigil a pour lui une ambiance certaine et un travail appuyé sur les cadres. On n'évite pas les petits défauts d'un premier film, avec ses quelques plans parfois redondants ou un peu longs, mais cela alimente l'insécurité grandissante. De plus, ils nous permettent de nous repérer dans cet espace, car dès lors que nous sommes enfermés dans la maison, il n'y a guère que 3 ou 4 pièces qui feront office d'arène. C'est Dev Davis, l'interprète de Yaakov, qui a la lourde tâche de quasiment porter tout le film sur ses épaules, et c'est avec succès qu'il nous fait partager sa crise de foi et sa peur. Rappelons que le film ne cède que très rarement à l'effet train fantôme de certaines productions récentes, ce qui constitue un challenge supplémentaire pour son interprète seul face à la mort. Pour vous inviter à prolonger l'expérience en salle, on ne peut que vous conseiller un film russe qui lui aussi a une actualité au niveau des sorties, mais cette fois dans un magnifique coffret DVD Blu-ray édité par Artus Film. Il s'appelle Vige ou le Diable, c'est le film fantastique le plus vu en Russie, et il partage en effet le même pitch de l'homme de foi qui va se retrouver face à une veillée funèbre très mouvementée, mais sur 3 nuits dans son cas. Une prolongation poétique et envoûtante pour un sujet éminemment cinématographique.
The Vigil bénéficie d'une large sortie, il est en salle depuis le 29 juillet. On termine cette émission avec un film qui a plus de 10 ans et sort seulement cet été. C'est Chungking Blues.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule...
Cinérama.
Je suis allergique.
Présenté au Festival de Cannes en compétition en 2010, Chungking Blues sort seulement cet été dans les salles de cinéma. Cette année-là, à Cannes, c'était Tim Burton qui était président. Et ce film du chinois Wang Xiaoshuai aurait pu avoir ses chances puisque le palmarès récompensait des films plutôt contemplatifs. La Palme d'Or revenant à Oncle Bunmi, celui qui se souvient de ses vies antérieures, d'Apichapong, Werazeta Cool, et le grand prix à Xavier Beauvois pour Des Hommes et des Dieux. Alors même s'il a été projeté pour la première fois en 2010, on ne peut pas dire qu'on se sente dans le passé. Nous sommes plongés dans la ville du titre, hein, une des plus grandes villes du Sichuan, constamment sous le brouillard, un brouillard qu'on ne perdra de vue que vers la fin pour rejoindre lentement la plage où le soleil peut éclairer les visages. Le film de ce cinéaste de la 6e génération, soit ceux qui ont tourné des films après les événements de Tiananmen, eh bien, ne peut pas faire autre chose que se questionner sur la société chinoise contemporaine. Là, il prend le biais du fossé générationnel. Capitaine au long cours, Lin revient dans les terres à Chongqing, 6 mois après la mort de son fils. Celui-ci, âgé de 25 ans, a été au centre d'un fait divers, donnant un coup de couteau à un homme et prenant en otage une femme dans un centre commercial. Alors, arrivant bien après les événements, ayant quitté son fils depuis l'âge de ses 10 ans, Lin veut comprendre comment son fils a pu en arriver là. Les hommes et les femmes témoins de cette tragédie s'ouvrent, non sans peine, hein, et le père comprend alors un peu mieux qui était son fils et combien son absence a pu peser sur sa vie. La mise en scène s'articule autour de la quête de ce père et de l'événement qui a causé la mort de son fils avec des images prises via les caméras de vidéosurveillance. Mais il s'agit moins d'une enquête policière que d'une introspection de la société chinoise dans laquelle le lien entre les générations semble coupé, entre les pères qui ont perdu un idéal et des plus jeunes qui semblent vivre le présent sans perspective, seuls, même entourés et se perdant dans la consommation. Le réalisateur assume le clivage entre les individus et leur environnement, Chongqing et son brouillard se perçoivent comme un personnage et prend tout l'écran quand les individus semblent séparés. Alors à ce propos, l'incroyable téléphérique suspendu au-dessus de la ville tentaculaire qu'on voit au début et à la fin du film donne une dimension métaphorique à l'ensemble. En regardant Chongqing Blues, on voit la quête d'un homme qui aura changé entre le début du film et sa clôture. L'ensemble est par ailleurs vaporeux comme le brouillard de la ville, mais plaisant et appliqué. Il faut saluer l'audace du distributeur Films Sans Frontières de sortir ce film si longtemps après sa fabrication. Chongqing Blues est en salle depuis le 5 août.
Au revoir. Ça s'impose.
Mais pour quelle raison?
Qu'est-ce que vous racontez? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne connais pas la réponse moi-même. Comme vous êtes bizarre.
Oui,
c'est difficile de répondre.
C'est une plaisanterie!
Ainsi s'achève Cinérama. On se retrouve la semaine prochaine, fidèle à ce principe des blind tests pour s'amuser et des chroniques de films qui sortent cet été.
This is Cinérama.